Je me réjouis d'être avec vous ici pour ouvrir la parole de Dieu et pour découvrir les merveilles de cette parole, inspirer la consolation qu'il y a dans l'Écriture. Hein, le psaume 107 est tellement plein de versets très importants pour notre vie. Et j'aimerais donc commencer une série de messages dans la Genèse, les débuts. Et nous allons bien sûr démarrer au tout début de la Bible. Et c'est toujours quelque chose de fascinant, d'extraordinaire, je trouve, de lire les premiers versets des Écritures, parce que nous entrons dans l'éternité, là. Quand vous lisez la fin, l'Apocalypse, chapitre 22, vous êtes dans l'éternité aussi. Et là, on démarre dans l'éternité. Il n'y a que Dieu qui est là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis nous, on regarde ce qui se passe. Lisons dans la Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On va s'arrêter là dans la lecture. Si vous lisez le premier verset en hébreu, hein, je vous encourage à l'apprendre en hébreu. On peut l'apprendre phonétiquement. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Et Aretz. Voilà. Et Bereshit, ça veut dire dans le commencement, au commencement. Et c'est le nom du livre de la Genèse. Parce que les livres de l'Ancien Testament ont été nommés par le premier mot qui apparaît. Donc ici, le premier mot, c'est Bereshit. Et donc, les Juifs l'ont appelé le livre de Bereshit, le livre du commencement. Et c'est vrai que la Genèse, c'est le livre des commencements. Et c'est là où on voit l'origine. Et on peut découvrir nos origines. On parle beaucoup de nos origines. D'où venons-nous? Eh bien, il faut ouvrir la parole de Dieu et on découvre cette description fascinante. Dans la Genèse, on trouve l'origine de l'univers, l'origine du temps, l'origine de la matière, l'origine de la terre, l'origine des cieux, du soleil, de la lune, l'origine de la vie. L'origine des plantes, l'origine des animaux, l'origine de l'homme, de la femme, l'origine du mariage, l'origine du diable, l'origine du mal, l'origine du péché, l'origine du jugement, l'origine de la mort, l'origine des langues, l'origine des cultures, des tribus, l'origine des gouvernements, l'origine du Messie, Israël. C'est extraordinaire, tout ça dans un livre. Et encore, j'en ai certainement oublié. Et c'est le livre de Dieu. Et la Genèse est particulière, et notamment Genèse 1, c'est un livre où il y a beaucoup de sept. Il y a sept mots dans le premier verset, par exemple, dans le verset 1, en hébreu. Il y a sept jours de la création. Le nom Elohim se trouve 35 fois, 7 fois 5. Le nom Terre, Aretz, se trouve 21 fois, 7 fois 3. Il y a sept déclarations de Dieu lorsque Dieu dit, par exemple, lorsqu'il dit « que la lumière soit ». Après, il dit qu'il y ait une étendue, que les eaux se séparent, que la terre, qu'il y ait des luminaires. Toutes ces déclarations sont des déclarations du Créateur, où il affirme, il dit que les choses soient ainsi. Il y en a sept dans Genèse 1, comme par hasard. Sept fois, vous trouvez l'expression « c'était bon » dans le récit de la création. Je vous avais dit lors d'une conférence sur l'Expo Bible une fois que le mot « Torah » est caché aussi dans le début de la Genèse. Torah en hébreu, ça s'écrit avec quatre lettres. To, Vav, Resh, E. Voilà, c'est les quatre lettres hébraïques pour écrire Torah. Eh bien, si on prend la première fois que le tau, le T, apparaît, il apparaît dans Bereshit. Hein, il y a un T là. Vous comptez 50 lettres et vous avez la deuxième lettre de Torah qui apparaît. Vav. Vous comptez 50 lettres et vous avez la troisième lettre de Torah qui apparaît. Resh. Vous comptez 50 lettres et vous avez la quatrième lettre de Torah qui apparaît. E. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est inspiré par Dieu. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les cinq premiers livres et la Genèse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu est symbolisé dans la Bible et la perfection aussi sont symbolisées par le chiffre 7. Par contre, l'homme et son imperfection sont symbolisées par le chiffre 6. C'est pour ça que l'Antéchrist sera 666, la Trinité satanique, tandis que la Trinité divine, c'est 777. Et Moïse n'était pas là au moment de la création, mais le Saint-Esprit lui a révélé tout ce qu'il devait savoir pour l'écrire. Mais aussi dans la Genèse se cachent, si on peut dire, plusieurs écrits des généalogies, qu'on appelle en hébreu toledot, qui décrivent les origines. Et chaque passage de la Genèse, à un moment, dit: voici les origines de la terre, de la création. Ensuite, voici les origines de l'homme, d'Adam et Ève. Voici les origines de Noé, les origines d'Abraham. Et en fait, on voit que la Genèse est séparée en généalogies, qu'on appelle les toledot. Et certainement, Moïse a aussi récupéré des textes avant son existence, puisque Abraham était bien avant Moïse, hein, Adam était bien avant Abraham, et ils ont certainement déjà écrit des choses pour relater ce que Dieu avait fait. Et Moïse a pu s'inspirer et réutiliser ces textes. Nous allons commencer donc en regardant: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au commencement, c'est la création du temps. Dieu crée le temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Le temps n'est pas quelque chose d'absolu. Pour nous, enfin, moi j'ai du mal à l'accepter, à le croire, hein. Pour moi, le temps, c'est le temps. Que tu sois ici ou que tu sois là-bas, c'est pareil, le temps, c'est le temps. Même s'il y a un décalage horaire, on a tous un certain nombre de minutes qui passent. Eh bien non, le temps n'est pas absolu. Le temps est relatif, c'est ce que Einstein a découvert avec la théorie de la relativité restreinte. Il a découvert que le temps est lié à la matière et que si la matière est différente, le temps est différent. Et en fait, le temps est lié à la matière, on ne peut pas les séparer. Et Dieu a créé le temps, Dieu était dans l'éternité. C'est pour ça qu'il est appelé celui qui est Yahvé et que Louis II a traduit par l'éternel. C'est-à-dire, Dieu n'est pas avant, après, il n'a ni commencement ni fin, il n'a jamais démarré, il a toujours été là, il est hors du temps, il est là, il est Dieu, il est absolu. Là encore, c'est dur à expliquer avec notre petite intelligence. Nous, on a un avant, un après, on voit le passé, on se demande ce qui va se passer dans le futur. Mais Dieu, lui, est hors du temps. Mais il est entré dans le temps, la personne de Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Il s'est limité à être dans le temps. Mais au commencement, c'est-à-dire Dieu a créé le temps. Et puis, il dit, hein, Dieu créa les cieux et la terre, et en fait, c'est toutes les dimensions de notre univers. Les cieux, c'est l'espace, la terre, c'est la matière, et puis il y avait le temps. Cieux, enfin, espace, matière, temps, ce sont les trois grands éléments qui composent notre univers terrestre, matériel, si on peut dire. Donc, Dieu est plus grand que le temps, Dieu est plus grand que la matière. En fait, les scientifiques doivent s'arrêter à au commencement parce qu'ils sont incapables d'expliquer le commencement de l'univers. Et je ne leur fais pas le reproche, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut nous dire comment a commencé l'univers. Alors, vous dites, oui, mais ils ont dit qu'il y avait un Big Bang. Oui, mais ce n'est pas le commencement de l'univers. Le Big Bang, selon la théorie du Big Bang, il y avait une boule de matière presque infiniment petite, qui a explosé et qui a donné l'univers actuel avec les galaxies et tout ça. Mais d'où venait cette matière, cette boule? Pourquoi a-t-elle explosé? Qu'est-ce qu'il y avait avant la boule, avant l'explosion? Qui a créé l'explosion? Il n'y a pas de réponse à ça, scientifique. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu. Voilà la réponse. Et en tant que chrétien, on doit faire attention à ne pas craindre les nouvelles découvertes scientifiques qui souvent se contredisent les unes les autres ou qui peuvent apparemment contredire la Bible. On ne doit pas se calquer sur les projets scientifiques ou les découvertes scientifiques, on doit se calquer sur la parole de Dieu. Au commencement, il n'y avait rien et Dieu était là. Il était le seul être dans l'univers au commencement. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose avant qu'il crée? Oui, il y avait quelqu'un en tout cas. Si vous lisez avec moi Jean 17, 24, cette parole du Seigneur Jésus, elle passe parfois inaperçue cette parole. C'est dans sa prière au Père. Et il y a un élément extraordinaire là. Jean 17, 24. Père, dit Jésus en priant le Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant de créer le monde. Il y avait donc le Père et le Fils avant la création du monde. Et il y avait cet amour déjà. C'est pour ça que Jean va dire « Dieu est amour ». L'amour existe avant la création. Il est inhérent à l'essence de Dieu même. Et Dieu aime, le Père aime le Fils. Il y avait cet amour en action. Et cet amour ne s'est pas arrêté au Père et au Fils. Il s'est transmis à une création matérielle. Dieu ne pouvait pas juste aimer le Fils. Le Père ne pouvait pas juste aimer le Fils. Il voulait aimer une créature. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Quand on lit Genèse 1, on découvre que Dieu a formé l'univers et dans cet univers, il a placé la terre avec le soleil et la lune et sur cette terre, il a placé des plantes, des océans, des animaux et quand tout cela était prêt, qu'est-ce qu'il a placé? L'homme. Et il a créé à son image, ce qui est une preuve d'amour extraordinaire. La terre a été faite pour l'homme. Elle est notre maison extraordinaire que Dieu a préparée. Il a tout mis en place, comme les parents font pour leur bébé qui va venir. Hein. Ils repeignent les murs, ils font mettre le lit, les jouets, tout ça. Tout est prêt pour l'accueil. Dieu était prêt à nous accueillir, à nous créer par amour pour nous. Il y a un autre verset qui dit ce qu'il y avait avant la création. 1 Pierre 1, 20, donc Nouveau Testament toujours, 1 Pierre chapitre 1, versets 19 et 20. Pour le contexte, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à cause de vous à la fin des temps. Avant la fondation du monde, Christ était prêt à mourir pour nous. Il était déjà un agneau sacrificiel. Avant de créer le monde, mais vous dites comment c'est possible? Nous, on n'existait pas. Pourquoi il voulait mourir avant qu'on existe? Parce que je vous l'ai dit, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu savait tout ce qui allait se passer. Il savait que en créant l'homme, il allait le créer avec un degré de liberté et que l'homme allait se révolter contre son créateur et qu'il aurait besoin d'un sauveur. Et Dieu, sachant cela, le Fils était prêt, avant même de nous créer, de mourir pour nous. Si ça avait été moi, le créateur, si j'avais su à l'avance que ma créature allait se révolter, qu'est-ce que j'aurais fait d'après vous? J'aurais dit, mais c'est même pas la peine de commencer. Ils vont se révolter, ils vont m'insulter, ils vont blasphémer, ils vont désobéir, ils vont faire n'importe quoi avec la terre que je leur ai préparée si bien, ils vont la détruire, ils vont se détruire les uns les autres, s'assassiner les uns les autres. je ne vais même pas commencer la création, j'arrête tout. Pourtant, le Seigneur a créé le monde quand même. Et pourtant, il a accepté de nous sauver de notre péché, de notre rébellion, de notre orgueil. C'est l'amour sublime du Seigneur, du Créateur. Christ était là, dans la présence du Père, avant la création. Mais il n'y avait pas que le Père et le Fils. Genèse 1, 2, qui était là aussi? Non. Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Dans cet amour extraordinaire. Et tous les trois ont créé l'univers. Qui a créé l'univers ici? Dieu. Et le mot en hébreu, c'est Elohim. Vous savez peut-être que Dieu se révèle par des noms différents dans la Bible selon les besoins. Elohim, c'est le nom commun, on pourrait dire. El, en hébreu, ça veut dire Dieu. Elohim, c'est le pluriel, c'est un pluriel. Chaque fois qu'il y a im, en général, c'est ou ot, en hébreu, à la fin, c'est que c'est un pluriel. Vous me dites, mais pourquoi il a un nom pluriel? Pourquoi on pourrait traduire les dieux? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non, parce que souvent, c'est Dieu pluriel créa. C'est pas les dieux créèrent. C'est pas la troisième personne du pluriel là, le verbe créa. C'est à la troisième personne du singulier. C'est un seul Dieu, mais qui est pluriel. Comment est-ce possible? Mais c'est, on peut pas l'expliquer logiquement, mais il y a la Trinité. Même si le mot n'est pas dans la Bible, ça, on nous le reproche assez souvent. La Trinité est clairement dans la Bible. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, une seule essence. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas, c'est pas qu'ils sont deux co-dieux, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein, le président et le vice-président. Il y a un seul Dieu, et ça, la Bible est claire là-dessus. Nous n'adorons pas plusieurs dieux. Les païens, eux, ont plusieurs dieux dans leur récit, hein. De la création dans le paganisme, vous avez une multitude de dieux qui sont là, qui se battent, qui ont peur, qui se tuent les uns les autres. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a le fameux récit d'Enuma Elish. C'est un récit babylonien de la création qui a été trouvé au 19e siècle, qui a été traduit ensuite. Et les savants, certains historiens ont dit, voilà, c'est plus vieux que la Bible, et c'est ça le récit, et la Bible s'est inspirée d'Enuma Elish. Mais quand vous comparez les deux récits, ça n'a rien à voir. Vous avez des dieux qui se battent, et puis vous avez un seul dieu qui crée dans la paix. Vous avez une paix dans ce chapitre 1, une sérénité, un absolu contrôle de tout ce qui se passe. La souveraineté de Dieu est absolue. Elohim. Plus tard, il dira « Faisons l'homme » au pluriel, à notre image, singulier. Grammaticalement, ce n'est pas possible, il y a un problème. Pourtant, c'est ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas une faute, c'est que notre Dieu est pluriel. Parce que Dieu, il y a l'amour en lui, et c'est ce qui fait qu'il y avait cette pluralité, ou cette pluralité fait qu'il y a l'amour. Nous voyons que le Fils est aussi l'auteur de la création. En Colossiens 1, verset 15. Passage assez connu aussi. Il est écrit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et attention, le premier-né, ça ne veut pas dire le premier créé, hein. Ça veut dire le chef. L'aîné. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, c'est-à-dire la terre, l'univers, la matière, mais aussi les anges. Tout ce qui est spirituel a été créé par Christ. Pas les démons, attention, les démons viennent après, ce sont des anges qui se révoltent. Mais les anges, oui, ont été créés. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, donc il est avant la création. Il est avant tout, il n'y a rien avant. Il est là, il est Dieu. Et ça, c'est le Fils, là. Le Fils va s'incarner en la personne de Jésus. Il va devenir Jésus de Nazareth. Mais le Fils est éternel. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'est l'allusion au nom de Dieu. Yahvé, je suis celui qui est. Et donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre. Le Saint-Esprit, j'aime bien cette expression, il se mouvait au-dessus des eaux. Le verbe, là, hébreu, rachaf, veut dire trembler, vibrer, couver. Il est utilisé en Deutéronome 32:11. Lorsque Dieu dit « Je suis comme un aigle sur vous qui couvre ses petits ». Et on peut imaginer l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui couvre l'univers et la terre en particulier. Et il y a ce mouvement de trembler. Hein, il semblerait que les poules et les oiseaux qui couvent émettent un tremblement qui provoque une certaine chaleur et un certain bien-être pour la croissance de l'œuf et du bébé. Qu'est-ce que c'est ce tremblement ? D'un point de vue scientifique, c'est peut-être, là, la Bible n'est pas un livre scientifique, donc, mais on peut l'assimiler à l'énergie. L'énergie, ce sont des vibrations, hein, il y a des vibrations de lumière, des vibrations énergétiques, et ça pourrait être cette énergie qui est à l'œuvre par le Saint-Esprit pour créer. Quelque part, on peut dire que le Père a conçu l'univers, le Fils est le but. Il est le créateur et le but de la création, et le Saint-Esprit, c'est l'acteur, c'est celui qui travaille à cette création, qui la préserve, qui veille dessus. Pour le salut, c'est un peu pareil. Le Père a conçu dans son amour qu'il sauverait les hommes pécheurs et rebelles qui se repentent. Et le Fils est venu mourir pour ces hommes pécheurs et rebelles que nous sommes. Et le Saint-Esprit vient nous sauver lorsqu'on accepte le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous sauve, qui nous fait naître de nouveau. Elohim bara, créa, Dieu créa. Bara, c'est un verbe hébreu très fort. Il y a un autre verbe qui est utilisé dans Genèse 1 et ailleurs, c'est asa en hébreu, qui veut dire faire. D'ailleurs, second a traduit, il fit, souvent, hein, il fit que je ne sais plus où c'est, dans quel verset ça se trouve. Dieu fit l'étendue, voilà, c'est asa, c'est un verbe inférieur au verbe bara, Dieu créa. Créa, c'est vraiment l'idée de rien, ex nihilo comme on dit en latin. Ça veut dire, il n'y a rien et Dieu crée. Il n'y a rien. On sait que la matière ne peut pas venir d'elle-même. Il n'y a pas d'auto-apparition de la matière. La génération spontanée, ça n'existe pas. La vie, encore moins. La vie ne peut pas apparaître comme ça de la matière. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait déjà un être vivant qui crée la vie. Et Dieu, il a créé tout ça de rien. Il n'y avait rien. Il y avait lui. Et il a dit, que cela soit. Nous avons un Dieu extraordinaire. La terre était informe et vide, dit le verset 2. Donc la terre n'avait pas de forme. Quand il a créé l'univers, la terre n'avait pas de forme et elle n'avait pas d'habitants. Il n'y avait rien. Alors l'expression hébraïque ici, c'est tohu wa bohu. Le fameux tohu bohu. Vous avez entendu cette expression en français. Hein? Ben, c'est là, ça vient de là, le tohu bohu. Elle était informe et vide. Alors, au XIXe siècle, il y a un Écossais, un théologien écossais qui s'appelait Thomas Chalmers, qui a inventé ou popularisé une théorie qui s'appelle en anglais la gap theory et en français la théorie du décalage. Qu'est-ce que c'est cette théorie ? Et il faut que je vous en parle parce que vous allez peut-être le lire à droite à gauche. On entend parler. C'est que, En Genèse 1:1, Dieu crée l'univers, et en Genèse 1:2, il s'est passé un terrible cataclysme. Enfin, avant Genèse 1:2. Et cette terre est informe et vide, tohu-bohu, parce qu'il y a eu la chute de Satan et il y a eu des gens qui sont morts, les hommes préhistoriques qu'on retrouve partout, et les dinosaures, etc. Tout ça, c'est une création ancienne qui a des millions d'années. Et ensuite, verset 3, Dieu recrée la terre, fait une nouvelle création, deuxième création. Alors pourquoi Thomas Chalmers a commencé à parler de ça? C'est qu'à son époque, hein, il est né en 1780, il est mort en 1847, les théories de Darwin commençaient à vraiment se répandre très fort et les chrétiens étaient mis en porte-à-faux. On disait, oh, les chrétiens, ils croient n'importe quoi, un vieux livre de légende, nous, les scientifiques, ça y est, nous avons trouvé l'origine, tout vient de l'évolution, ça a mis des millions d'années. Il y avait des géologues hein, qui étaient avec Darwin qui disaient, mais tous ces terrains-là, ça a mis des millions d'années, regardez toutes les strates. Et les chrétiens ne savaient pas quoi répondre, parce que dans la Genèse, il n'y a pas question de millions d'années, de strates et tout ça, et d'hommes préhistoriques. Alors, certains, comme Thomas Chalmers, ont pu caser toute cette création-là, tous ces hommes préhistoriques, entre ces deux versets. Personnellement, je n'accepte pas cette théorie. Je conçois que d'autres puissent y croire, mais mes deux raisons, mes deux arguments aussi, alors que j'y ai cru quand j'étais nouveau chrétien, c'est premièrement parce que ça mettrait la mort avant la chute d'Adam et Ève. Si tous ces gens sont morts, tous ces animaux sont morts avant Genèse 3, ça veut dire que la mort existait avant Adam. Or, c'est écrit hein, en Romains chapitre 5 que la mort est entrée par un seul homme. Et le contexte dit bien que c'est Adam. La deuxième raison, c'est que plusieurs fois, il dit dans Genèse 1, et voilà, c'était bon. Je ne sais pas comment Dieu pourrait dire c'est bon s'il y a déjà eu un cataclysme avec Satan qui a tout cassé, la terre complètement embouillée à cause d'un jugement ou à cause de Satan. Mais alors, comment expliquer ce informe et vide? Comment expliquer qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme? On peut l'expliquer simplement parce que quand Dieu a créé, il a fait plusieurs étapes. Quand un sculpteur sculpte quelque chose, d'abord il pense, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais sculpter un lion. Hein, je pense à celui qui a fait le lion de Denfert. Voilà. Je vais sculpter un lion. Alors il imagine dans sa tête, il va être comme ça, il va être couché, il va avoir la tête comme si, on va voir ses dents ou peu importe, il aura la crinière dans tel sens. Il conçoit ce qu'il va faire. Ensuite, il va prendre du plâtre ou de l'argile, l'argile c'est mieux, et il va commencer, et l'argile, il va prendre une boule d'argile. Ou il va prendre un morceau de métal s'il le fait dans le métal, ou une pierre s'il le fait dans la pierre, et cette pierre sera informe et vide quelque part. Et ensuite, il va sculpter ce qu'il a conçu. C'est l'image qui me paraît la plus proche de ce qui a pu arriver. Une ébauche, ça voudrait dire que Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Dieu sait exactement où il faut aller, il ne se trompe pas, il n'ébauche rien, mais il part d'une chose vide et il en fait une création magnifique. C'est l'idée d'être vide, sans forme et vide. Et Dieu va donner une forme à l'univers et à la terre et il va le remplir de choses vivantes. Il va créer des êtres vivants et il va la remplir et la terre bouillonne de vie. Il y a de la vie qu'on voit, il y a la vie qu'on ne voit pas. Nous marchons malheureusement sur des milliards de bactéries et de petits insectes microscopiques, mais ça grouille de vie la terre, et parce que Dieu l'a remplie. Les ténèbres, au départ, c'était simplement l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est l'absence. Il n'y a pas un atome de ténèbres. Par contre, il y a un atome de lumière, le photon. Voilà. Et la lumière peut avoir différentes formes, hein. Mais les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et donc, Dieu a vu cette forme vide, toutes ces ténèbres qui remplissent l'espace, hein, toutes les sondes et les télescopes nous montrent qu'il y a beaucoup de ténèbres dans l'univers. Et toute cette ténèbre, cette nuit, Dieu y a placé la lumière, qui a éclairé le monde et l'univers, et la Terre en particulier. Et il va séparer la lumière et les ténèbres. Et c'est la première chose qui se passe. Il y a deux éléments là. Dieu crée l'univers, mais ensuite il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et ensuite Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière avec les ténèbres. D'abord il parle, et ensuite il sépare. Le fait qu'il parle, c'est très intéressant. Dieu crée par sa parole. En fait, il faut une pensée pour créer quelque chose. Et en particulier, pour que notre univers existe, il fallait qu'il soit pensé, conçu, mais il fallait aussi qu'il soit parlé. Mes pensées ne valent rien. Ce qui vaut quelque chose, à un certain moment, c'est quand je parle ma pensée, c'est quand ma pensée est exprimée. Là, elle peut avoir un effet. Mais tant que ça reste en moi, personne n'en profite, je dirais, à part moi. Et c'est un peu avec la pensée de Dieu, le Père conçoit, mais le Fils et le Saint-Esprit sont l'expression de cette pensée. Et en particulier le Fils, si vous prenez avec moi Jean 1, qui est le passage parallèle à Genèse 1, hein, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le récit de la création aussi. Et non seulement il ne contredit pas, mais il confirme Genèse 1. Au commencement était la parole. Et j'aime bien, ça démarre pareil, hein, au commencement. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement, il y avait la parole de Dieu. Et on voit plus tard, c'est qui la parole? Bien sûr, si vous connaissez un peu ce passage, verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est bon de le savoir, ce verset. C'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole, dans ce passage. Le Logos. Et le Fils était là, et il est la parole. Et en même temps, Dieu a parlé. Et je ne peux pas vous dire comment mettre les deux choses ensemble, mais c'est quand Dieu parle que la chose arrive, parce que Dieu a toute autorité par sa parole. Il y a des passages parallèles aussi en psaume 33, que j'aime beaucoup, versets 6 à 9, j'aimerais vous le lire. Psaume 33. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée, donc les étoiles, mais aussi les anges, par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, il n'y a que le Créateur qui peut faire ça. Moi, quand je dis quelque chose, souvent les pasteurs sont frustrés. Allez, cette année ou cette semaine, on va faire ça, ça et ça. Et puis, il n'y a personne qui suit. Et on dit, voilà, je parle, mais ça ne crée pas les choses. Et ça arrive dans les familles ou au travail. Mais quand Dieu parle, d'abord, Dieu ne parle pas à tort et à travers comme nous. Quand Dieu parle, c'est sa parole, le Fils qui agit et qui crée tout. On a la même vérité en Hébreux, chapitre 11, je vais vous le lire aussi, verset 3. « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La parole de Dieu est invisible, mais pourtant elle a créé tout ce qui est visible, tout ce qui est matériel. Christ a créé tout ce qui est visible et matériel. La matière n'est pas venue comme ça. La matière vient d'un créateur intelligent, d'un logos, d'une pensée, d'un être vivant qui nous aime. Et puis Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. La lumière est bonne. La lumière fait du bien. La lumière, c'est la vie. S'il n'y avait pas la lumière, on mourrait tous. C'est la vie pour les plantes, c'est la vie pour nous, pour les animaux. Dans le contexte de Genèse 1, on voit que les ténèbres et la lumière, c'est aussi le jour et la nuit. Puisqu'il, verset 5, il dit « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ». Et depuis la création de la terre, il y a le jour et la nuit, même avant que le soleil soit là. Parce que le soleil est créé plus tard. Alors comment est-ce possible? C'est que tout simplement, il y avait une source de lumière, qui était certainement le Seigneur lui-même, qui éclairait la terre. Et la terre était en rotation depuis le début, et il y avait donc un jour, une nuit. Quand on était caché du Seigneur, de la lumière du Seigneur, on était dans la nuit. Mais les ténèbres et la lumière ont évidemment aussi une portée spirituelle dans la Bible, hein, partout. Et en Jean en particulier, hein, il parle des enfants des ténèbres, hein, et des fils de la lumière. Dans l'Apocalypse aussi, les ténèbres, c'est là où Satan a mis ses quartiers. La nuit, c'est là que beaucoup de crimes, hein, ont lieu. Les ténèbres, c'est vraiment ce qui voile les yeux, ce qui empêche. Satan est appelé comment ? Le prince des ténèbres. Il est celui qui utilise les ténèbres pour se cacher, pour cacher ses desseins, pour mentir, pour tromper. Et il veut nous emmener avec lui dans les ténèbres. Et les hommes sont plongés souvent dans les ténèbres à cause de Satan, l'ennemi de Dieu. Mais quand on se tourne vers Christ, Christ est la lumière. Jean chapitre 1 aussi. Hein. Cette lumière était la véritable lumière. Quand on se tourne vers Christ, tout s'éclaire, tout devient clair. On comprend pourquoi on est là, on comprend à quoi sert notre vie, qu'on a un sens. On comprend pourquoi il y a le mal, le bien, la mort, la vie. Tout commence à s'éclairer, à se mettre en place, parce qu'il y a la lumière qui éclaire tout. Et Dieu a dû séparer tout de suite la lumière des ténèbres, parce qu'il savait que les ténèbres seraient utilisées par l'ennemi de Dieu. Et il fallait vite faire la distinction. Et ça, c'est un principe biblique de la sainteté. Sainteté, c'est séparation pour Dieu. Et Dieu a séparé beaucoup de choses. Hein. Il a séparé le bien du mal, les ténèbres et la lumière. Il a séparé Israël des coutumes païennes. Il disait tout le temps au peuple juif, « Ne faites pas comme eux !» Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si vous lisez la loi que l'on trouve dans le livre de l'Exode et dans le Lévitique, dans le Deutéronome, il dit ne faites pas comme les païens. Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi ne pas faire comme on faisait avant. Notre vanité de vie dans le paganisme, dans la superstition, dans l'orgueil, dans toutes ces mauvaises choses, Dieu veut qu'on se sépare de ça, qu'on soit un peuple saint pour le Seigneur. Dans la lumière, dans le jour. Et voilà donc ce Dieu créateur que nous avons, qui s'est fait connaître à nous, à travers la parole de Dieu justement, à travers le Fils. On peut connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est absolument invisible, il n'est pas matériel. Il n'a pas de corps. C'est pour ça d'ailleurs que c'est par la parole qu'il crée. Il n'a pas une main et un bras qui disent « Bon, ben, je vais faire comme le sculpteur dont je vous ai parlé, mais cette fois-ci, littéralement. » Non, Dieu crée par sa parole, parce qu'il n'est pas matériel. Mais le Fils, lui, est l'image de Dieu. Il nous a révélé, pour les yeux des disciples, mais aussi pour nous, qui est Dieu. Il a révélé cet amour incommensurable de donner sa vie pour nous, de mourir pour nos péchés, de se sacrifier pour des créatures qui n'en valaient pas la peine. De devenir lui-même l'une de ses créatures, quelque part. Puisqu'en prenant un corps, le Fils fait partie de la création. Il est entré dans le temps, il est entré dans les limitations d'un corps, dans la souffrance. Pour accepter ça, il fallait vraiment être le Dieu de tout amour. Il n'y a rien qui surpasse notre Dieu. Non, l'amour fait partie de l'essence de Dieu. Dieu est amour. Tout ce qu'il pense est motivé, je dirais, par l'amour. Mais sa pensée va plus loin, va plus vaste. Il pense à d'autres choses, mais tout est ancré dans l'amour. Tout ce qu'il fait, même les jugements, même les condamnations, sont faites par l'amour, pour la sainteté, pour la gloire et la justice de l'univers et surtout du Seigneur. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est adorer ce Dieu extraordinaire, ce Dieu infini qui nous dépasse. Là, on a essayé de comprendre des choses, mais franchement, ça nous dépasse de très loin. Je prendrai les questions après, si vous voulez bien, mais notez-les bien. Parce que je suppose que ça suscite justement pas mal de questions. Mais j'aimerais qu'on termine juste par un cantique. C'est le 11, « Gloire à l'Éternel ». Il est dans le programme.